Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59, tiens, 8h, tout pile. Très bon lundi sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'impunité s'est terminée. Voilà la promesse ce matin du gouvernement dans le dossier Novasco. La justice va très certainement annoncer ce matin la liquidation de 3 des 4 usines de ce fleuron de l'acier. Et le gouvernement va attaquer en justice le groupe britannique qui avait repris Novasco il y a seulement un an. Volodymyr Zelensky à Paris. Aujourd'hui, le président ukrainien arrive dans la capitale pour demander des armes à Emmanuel Macron. Et le procès du drame de Cholet à l'été 2022. Souvenez-vous quand le feu d'artifice du 14 juillet avait tourné au drame et fait deux morts.
C'est à 9h que le coup près va tomber pour les salariés de Novasco.
Oui, Novasco, ce sont les anciens Ascometal. Hein. Ils en sont à leur quatrième redressement judiciaire en 11 ans. Et on se dirige tout droit ce matin, 9h, au tribunal de commerce de Strasbourg vers la liquidation de 3 des 4 sites du groupe. En fait, seulement une usine, celle près de Dunkerque, serait sauvée. Seulement 150 emplois sur 760, tous ceux de Saint-Étienne. Ceux de près de Nancy et ceux d'Agondange qui vont se retrouver sur le carreau. C'est le cas de Stéphane, par exemple. Il travaille à Agondange depuis 15 ans.
Il y a quelques temps en arrière, au mois de juin, on continue à travailler, on parlait d'autre chose. Tout s'est vraiment accéléré pendant ces mois-là. Et le fait de dire que l'usine va mourir va déjà mettre un gros coup émotionnel auprès des salariés. 15 ans de ma vie partis en fumée comme ça et qu'on nous laisse tomber. Hein, très clairement, on aurait pu nous sauver mille et une fois. Et aujourd'hui, on a l'impression de un peu mourir dans le silence, quoi.
Alors Amélie Courtet, c'est vous qui avez recueilli cette réaction ce matin en direct pour RMC depuis le site d'Agondange. On vous retrouve en attendant le coup près. L'info ce matin, c'est que le gouvernement décide de poursuivre en justice le fonds d'investissement britannique qui avait repris Novasco il y a seulement un an et qui n'a pas tenu ses engagements.
Oui, vous l'avez dit, l'impunité s'est terminée, dit le gouvernement qui saisit les tribunaux contre l'ancien repreneur britannique Greybull, qualifié de voyou. C'est eux qui avaient repris Novasco l'an passé. Ils avaient promis d'investir 90 millions d'euros, tandis que l'État investissait 85 millions dans l'acieriste. Ils n'ont pas tenu leur promesse, assure le ministre délégué chargé de l'industrie Sébastien Martin, qui affirme que seulement 1,5 million d'euros ont été apportés en fonds propres. Il les accuse également durant ces dernières semaines de ne pas avoir apporté de propositions concrètes et sérieuses sur l'accompagnement des salariés de Novasco. Ce n'est pas l'État qui est en cause, résume le ministre, se dédouanant de toute responsabilité sur la situation actuelle. Le tribunal de Strasbourg risque d'annoncer dans une heure la liquidation de 3 sites sur les 4, dont celui où je me trouve à Agondange. C'est la plus grosse usine. Ici, on y fabrique essentiellement des pièces de sécurité pour l'automobile. 450 salariés au total, tous menacés devant moi. Ils sont une petite dizaine là, à se réunir en ce moment, bloquant la route vers le site principal de fabrication en brûlant des palettes. Ils sont agréablement surpris de cette décision de l'État. Eux aussi envisagent d'attaquer Greybull individuellement par leur avocat s'il n'y a pas réparation après la mort annoncée de leur métier.
Et voilà dans quel contexte va se tenir aujourd'hui la première édition 100% française du sommet Chooz France. Ce sommet est consacré uniquement aux investisseurs français. Cette fois, déjà 30 milliards d'euros d'investissement ont été promis en plein débat sur le budget avec les craintes répétées des patrons. On les entend régulièrement en ce moment. Emmanuel Le Chip va y revenir d'ailleurs dans quelques minutes. En attendant, c'est à 9h30, donc ce matin, que Volodymyr Zelensky va rencontrer Emmanuel Macron. Le président ukrainien est à Paris. C'est la 9e fois qu'il vient en France depuis le début de la guerre en Ukraine. Il a lui-même annoncé un accord majeur en préparation. Concrètement, Romain Hougue, il vient chercher des armes.
Oui, les deux chefs d'État vont se rendre ce matin sur la base aérienne de Villa-Coublay, la base 107, où Volodymyr Zelensky se verra présenter de l'armement de conception française, notamment le Rafale, le fameux avion de combat, mais aussi un système de défense anti-aérienne nouvelle génération qui dispose de plus grandes capacités d'interception de missiles. L'objet de cette visite, c'est évidemment pour le président ukrainien de renforcer son arsenal militaire, en particulier dans les airs. L'Ukraine est sous le feu des drones russes lancés pratiquement toutes les nuits contre son territoire, et l'utilisation de drones, c'est vraiment un point clé dans la stratégie militaire de l'Ukraine. Ils sont responsables de 70% des destructions de matériel ennemi sur le front. Oui. L'armée ukrainienne entend en utiliser 4,5 millions cette année. C'est d'ailleurs cette question des drones qui sera au cœur du forum franco-ukrainien auquel participeront les deux dirigeants dans l'après-midi.
Un adolescent de seulement 12 ans, toujours entre la vie et la mort ce matin, touché par 3 balles dans la nuit de samedi à dimanche à Grenoble. Ça s'est passé au pied d'un point de vente de drogue. La préfecture de l'Ain porte plainte après les incidents de samedi soir à Bourg-en-Bresse. Ce que vous entendez, c'est un rassemblement de tuning qui a dégénéré sur le parking du Leclerc, Bourg-en-Bresse. 800 voitures, 3000 personnes présentes pour ce rassemblement qui n'était pas autorisé. L'intervention de la police a tourné à l'affrontement à coups de tir de mortier. 3 véhicules policiers dégradés. On reparle ce matin du drame de l'été 2022 à Cholet. Vous vous souvenez peut-être du feu d'artifice du 14 juillet qui avait fait 2 morts. En l'occurrence, un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans. Des fusées avaient atteint la foule. Eh bien, le maire, son adjoint, l'artificier et l'organisateur de la soirée sont jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal judiciaire d'Angers. Pour homicide et blessures involontaires, Guillaume Bier, chef du service police justice à RMC, les victimes de ce drame attendent des réponses sur les responsabilités des prévenus dans cette affaire.
Margot avait 16 ans à l'époque. Elle était juste à côté du petit garçon et de sa grande sœur qui ont été tués.
Tout d'un coup, il y a une fusée clairement qui est partie dans la foule. J'ai ressenti une sorte de chaleur, ça sentait la poudre. J'ai vu les deux personnes qui sont décédées. C'est quelque chose qui m'a traumatisée. Ça handicape au quotidien parce que ce stress post-traumatique, il est tout le temps. J'ai du mal, en tout cas, à aller dans les endroits de fête où tout le monde est joyeux parce que moi, je me dis, la dernière fois que je suis allée dans un truc comme ça, il s'est passé un drame. Et du coup, maintenant, en fait, je me sens plus en sécurité nulle part.
Margot assure qu'elle n'imaginait pas être en danger ce soir-là. Or, les mesures élémentaires de sécurité n'ont pas été prises, dénonce son avocat, maître Pascal Rouillet.
Il n'y avait aucun barriérage pour protéger les gens et le public nombreux. L'amateurisme, les approximations sont incroyables.
Parmi les prévenus, le maire UDR de Cholet, Gilles Bourdoulex, est lui aussi jugé pour homicide et blessures involontaires. Mais ses avocats soulignent qu'il avait délégué ses pouvoirs à son adjoint et qu'il ne s'estime donc pas responsable.
Rendez-vous judiciaire aussi aujourd'hui pour Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain qui vont se retrouver au prud'homme. Les histoires d'amour finissent toujours mal. Kevin Morand, c'est la fameuse affaire de 55 millions d'euros d'impayés que l'attaquant réclame à son ancien club.
Oui, et ce sont donc 4 conseillers prud'hommes qui devront trancher ce litige entre le joueur et le PSG qui remonte à l'été 2023. Mis à l'écart pour avoir refusé de prolonger afin de quitter le club libre en fin de saison, Kylian Mbappé est finalement réintégré à l'équipe professionnelle du PSG. En échange, selon le club, le joueur était d'accord pour renoncer à une partie des sommes dues à la fin de son contrat. Une version réfutée par le camp Mbappé qui réclame donc le versement de salaires et de primes impayées, soit 55 millions d'euros au total. Mbappé demande aussi désormais la requalification de son CDD en CDI. Maître Élie Dautelonde, avocat au barreau de Paris.
C'est rare que le conseil des prud'hommes tranche des questions avec des montants aussi élevés, mais Mbappé reste injusticiable comme les autres.
Compte tenu des délais aux prud'hommes, la décision ne pourrait intervenir que dans plusieurs mois.
Sans Mbappé, tiens, les Bleus qui ont terminé les éliminatoires pour le Mondial par une victoire 3-1 en Azerbaïdjan hier soir, en attendant maintenant le tirage au sort de la phase de poule de ce Mondial le 5 décembre prochain. Les Bleus du rugby sont de retour à Marcoussis pour préparer le 3e match de la tournée d'automne qui est pas brillante jusque-là. Il y a 2 changements dans le groupe élargi pour préparer le 3e match samedi contre l'Australie, le Toulousain Gourgues et le Montpellier Anouchi qui sont appelés en renfort.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
C'est l'heure de parler économie avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel Le Chip.
Bonjour à tous.
Un nouveau sommet Tous France qui se tient aujourd'hui, mais alors attention, uniquement avec des entreprises françaises.
Oui, d'habitude, ces sommets qui se tiennent en grande pompe au château de Versailles ont pour but de convaincre les patrons étrangers de venir investir en France. Ils étaient 400 encore au mois de mai, de 46 nationalités différentes. Là, l'objectif, c'est de réunir 150 patrons français pour les convaincre de continuer à investir en France et surtout de les rassurer dans cette période de débats budgétaires électriques qui ont vu chaque jour s'allonger la liste des nouvelles taxes que la gauche et le RN veulent leur imposer.
Le problème, c'est que c'est pas seulement le débat budgétaire qui inquiète les patrons.
Absolument. La meilleure preuve, c'est que le début de la réindustrialisation, perceptible depuis 2017, a fait long feu puisque pour la 2e année consécutive, la France a fermé davantage d'usines en 2025 qu'elle n'en a ouvert. C'est ce que montre le recensement que vient de publier l'usine nouvelle. Entre janvier et mi-novembre, 80 sites industriels ont ouvert, mais 108 ont fermé ou sont sérieusement menacés. C'est 2 fois plus qu'en 2024. Et puis, les difficultés ne sont plus seulement concentrées dans le secteur de l'automobile. Il y a aussi l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la métallurgie ou le textile habillement qui sont concernés par ces fermetures.
Est-ce que le gouvernement a quand même suffisamment d'arguments pour tenter de convaincre les entreprises un, de rester en France, ouais, et deux, de miser encore plus sur la France.
Bah, il va essayer de montrer la plus belle vitrine possible aujourd'hui. Ouais. Hein. Il va annoncer 30 milliards d'investissements français répartis dans 151 projets. Il y a ceux de Safran, il y a ceux d'Urgo, il y a ceux de Danone, de Sanofi qui sont assez emblématiques. Sauf que sur ces 30 milliards, il n'y en a que 9 qui sont réellement consacrés à des projets nouveaux. Et puis le problème pour ces patrons, ce n'est pas de savoir comment va la France aujourd'hui. C'est que quand vous décidez d'investir, c'est pour les 10-15 ans qui viennent. Donc en gros, pour eux, le pari, c'est à quoi ressemblera la France dans 10 ans. Et au vu de l'évolution politique des 20 dernières années, que ce soit les majorités de gauche, les majorités de droite, rien n'indique aujourd'hui que la France ne sera plus le pays des coûts de production élevés, des impôts records, de l'instabilité réglementaire, des diktats écologiques, et qu'elle saura enfin valoriser ses atouts qui sont incroyablement nombreux. Il faut le rappeler, en fait, tout le monde dit, hein, il n'y a pas un pays qui gâche le plus ses chances aujourd'hui en Europe que la France. Donc miser sur la France aujourd'hui, c'est comme miser sur un pays émergent. Beaucoup de potentiel, mais beaucoup de risques que ça ne marche pas.
Merci beaucoup, Emmanuel. 8h10. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, I'm la réussite free. Est en vous. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Restez bien avec nous. C'est avec aussi mon invité de 8h30, je vous le dis. Ce sera Patrick Sébastien.
Juste
tout de suite.
Jour en lire, la fiesta. On va lancer le vélo vert. La fiesta, la fiesta.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14, vous regardez RMC Story, vous écoutez RMC et c'est l'heure de rire avec Arnaud Demange. Bonjour Arnaud.
Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver en ce lundi matin, les copains. Non, c'est sympa de bosser entre amis. Ça avait une petite ambiance et tout, c'est chouette.
C'est vrai, c'est vrai.
J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'étais à Verdun. Je suis allé à la messe en hommage au maréchal Pétain. Non, je déconne. Oh là là, je déconne. J'ai pas pu, il y avait plus de place. Non, mais il y a vraiment eu cette messe organisée à Verdun par une association qui défend la mémoire du maréchal. Et il y a des gens qui sont vraiment allés là-bas, quoi. Alors après, le week-end à Verdun, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Donc, le week-end prochain, d'ailleurs, sachez que dans la Marne, on organise une soirée échangiste organisée par l'association des amis de l'abbé Pierre.
Non,
à
non.
Ne pas louper. Mais Pétain, quand même, il a collaboré, il a livré des juifs, il a créé la fête des mères. Ça, Apo me disait, la fête des mères, je pardonnerai jamais. 15 ans à devoir porter des colliers de nouilles à l'antenne.
Je l'ai fait.
Ah oui,
je les ai portés, oui.
Et ben voilà, c'est un calvaire ce truc. Mettre des fleurs dans les vases en pâte à sel, faire semblant d'être contente en écoutant des poésies. Salaud de Pétain. Alors à quoi ça pouvait ressembler cette messe?
Bien chers frères et sœurs, célébrons aujourd'hui la figure de paix, figure de réconciliation du maréchal Pétain. Pétain a su tisser des liens entre nous. Pétain a su coudre le tissu social. Oui, Pétain coup, ça fait du bien.
Oh non,
non mais on reçoit Patrick Sébastien dans 5 minutes.
Je
pars le terrain. L'extrême droite a répété pour l'occasion ce mensonge démenti 1000 fois. Pétain a sauvé des milliers de juifs en livrant moins que prévu. Éric Zemmour avait déjà dit ça. C'est un peu comme dire que Xavier Dupont de Ligonnès aimait tellement sa famille qu'il leur a épargné 10 ans de présidence Macron. Vous voyez, c'est un peu ce même raisonnement. Et Dominique Pellicot qui a tellement fait pour qu'on parle enfin de la soumission chimique. Alors chez les insoumis, on a protesté. Même si on a des lacunes, Sébastien Delogu, le député LFI, souvenez-vous, il savait même pas qui était Pétain.
Je sais pas qui est Pétain.
Vous souvenez de cette histoire?
Oui.
Je sais pas qui est Pétain. Oui, d'accord, mais ça vous choque qu'on dise qu'il a sauvé des juifs? Ah bon, il a sauvé des juifs? Ah ouais, c'est pas bien. C'est un sioniste, Pétain. Je suis sûr qu'ils ont un musée du pétainisme à Tel Aviv. Apprenez vos leçons d'histoire, les enfants, ça évite des drames.
Oh mon Dieu. Le chanteur Alain Souchon a créé une polémique en déclarant ne pas croire que les Français soient, je cite, assez cons pour voter Rassemblement National en 2027.
Oui, alors d'un point de vue purement commercial, traiter de cons 40% de ta clientèle, je sais pas si c'est l'idée du siècle. À McDo, ils ont compris ça. Hein, ils font, venez comme vous êtes.
Voilà.
Ils disent pas, allez les obèses, venez. Vous nous dégoûtez, mais vous avez de l'argent. C'est pas ça leur slogan. Vous voyez, au moment de vendre des Twingo, le slogan de Renault, c'était pas « comme vous êtes naïf ». Alors, Alain Souchon a reçu des milliers de messages venant d'une foule pas vraiment sentimentale. Et non, Alain Souchon qui a ajouté « si le RN passe, je pars vivre en Suisse ». Alors Alain, si tu penses que la Suisse brille par son engagement contre l'extrême droite...
Oui.
Toi aussi, il est temps que tu ouvres un bouquin d'histoire. Alors, il n'est pas seul, puisque tous les tennisman français ont aussi déclaré que si le RN passait en 2027, il resterait en Suisse, où ils vivent depuis 20 ans. Ben, on a des sportifs engagés. Ouais. En tennis, ils sont pas bons, mais au moins en histoire, ils sont nuls aussi.
Voilà. Arnaud, le patron du BHV, Frédéric Merlin, a reporté l'ouverture des 5 magasins Shein en région.
Oui, il veut prendre son temps pour, je cite, s'adapter aux particularités locales. Alors, rappelez-vous, Frédéric Merlin, c'est le type qui a dit à ses clients eh, « Je fais ça pour vous, hein, les gens qui savent pas s'habiller ». C'est une vraie citation. Mais oui, du coup, il veut s'adapter aux provinciaux. Salut les villageois, salut les ploucs. Dans vos trous paumés de beaufs de province, j'ai compris qu'il y avait des particularités à respecter. Car vous, les cutéreux, vous êtes différents des parisiens. Non seulement vous vous fringuez mal, mais en plus, vous êtes pauvres. Alors, nous allons nous adapter. Parce que, pour que vous ayez du Shein à pas cher, nous allons relocaliser la production à proximité de vos bourgades. Avec Shein, notre partenaire Shintok, nous allons installer un camp de travail ouïghour en banlieue de Châteauroux, en banlieue de Saint-Nazaire ou de Montluçon, ou d'un autre de ces bidonvilles pittoresques où vous vivez. Bien sûr, c'est horrible, mais heureusement pour les Ouïghours, ils n'auront pas le temps de visiter le centre-ville de Châteauroux. Au BHV, on n'est pas si cruel. Et ce n'est pas tout. Comme chaque marché a ses spécificités, nous nous adapterons. Les ch'tis, par exemple. Nous savons que vous aimez que vos poupées sexuelles vous ressemblent comme si c'était une cousine ou une nièce. Eh bien, nous les ferons sur mesure à partir d'une simple photo de famille. Et oui, vous êtes bien avec les BHV Merlin. Faut qu'il revienne, lui. Faut qu'on le re-reçoive. Allez, à demain. Et bon Patrick Sébastien.
En effet, je sens que vous avez hâte.
Ah, moi j'ai hâte.
Vous avez hâte qu'il soit 8h30 parce qu'effectivement, dans un instant, mon invité, c'est Patrick Sébastien. Et pourquoi pas, je vais vous dire, je suis quand même frappée depuis 3 semaines les mots que les hommes politiques eux-mêmes utilisent pour qualifier ce qu'il se joue à l'Assemblée nationale. Le très sérieux président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui dit que c'est un véritable cinéma, que c'est un spectacle, que ce sont des guignols. Alors au fond, eh bien Patrick Sébastien, qui certes a été à la tête du plus grand cabaret du monde, eh bien aujourd'hui, il parle aux Français, il fait un tour de France, il recueille leurs doléances et il les porte. Alors voilà, il viendra le dire à mon micro dans un instant. Patrick Sébastien, ça se passe dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Sébastien.
Bonjour madame. Mademoiselle, on n'a plus le droit.
Vous auriez pu, ça me fait plaisir. Patrick Sébastien, vous êtes évidemment animateur, chanteur, auteur de ce livre qui vient de sortir, Même pas peur aux éditions XO. On va y revenir, vous parlez de cette société où on aimerait faire peur, dites-vous, aux gens, mais précisément, vous n'avez pas peur, vous n'avez même pas peur de la mort, dites-vous.
Si, mais pas seulement. J'ai fait le tour de nos peurs, parce que les peurs sont partout. La peur du regard des autres, la peur qui nous est instillée par les médias, la peur d'entreprendre, ça nous entoure. Et donc, à partir de mon propre vécu, je donne des conseils aux gens pour éviter certaines peurs, justement.
Alors ça, c'est dans votre livre. Parallèlement, vous avez lancé un mouvement, ça s'appelle « Ça suffit » et vous voulez être le porte-parole des revendications des Français. Et je vais vous dire aussi pourquoi je vous ai invité, Patrick Sébastien. Et je voudrais aussi l'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Parce que depuis des semaines, notre quotidien, notre vie politique hérite mais par des discussions sur un budget dont on ne sait même pas s'il va aboutir et s'il en restera quelque chose. Et les mots utilisés par les politiques eux-mêmes, y compris les plus sérieux, c'est cinéma, spectacle, sorcellerie, guignol. On n'est pas loin du grand cabaret, mais au fond, vous prenez-vous la politique malgré tout au sérieux. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir votre regard sur ça, sur ce que même appelle le cinéma.
C'est pas malgré tout, c'est que moi je suis la caricature. Tu sais, je suis une caricature. C'est d'ailleurs quand j'ai commencé à parler de ce moment, retourne faire tourner tes serviettes. Cette sorte de mépris qu'il y a pour moi, c'est un mépris général pour toute une France qui a plus la parole, qui en a marre. Si je vous dis ça suffit, c'est parce que c'est ce que j'entends le plus autour de moi. Et je suis très légitime pour ça, parce que tout mon parcours de vie, j'ai jamais lâché ces gens-là. C'est pas forcément la France la plus pauvre, c'est toute une classe moyenne qui, ça va des pauvres évidemment, jusqu'à une classe moyenne même haute, qui n'y arrive plus, qui n'en peut plus, qui regarde ce spectacle plus que désolant de ces hommes politiques. J'ai fait le comparatif avec avec un couple. On a l'impression de voir. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. J'ai l'impression de voir des parents qui s'engueulent devant des enfants. Moi, quand j'ai eu des ruptures avec mes épouses différentes. On est passé sur notre orgueil, on est passé sur notre ego pour protéger nos enfants. Là, on a l'impression
ils sont irresponsables.
On a l'impression que c'est leur ego. De toute façon, c'est ça, c'est leur ego, c'est leur orgueil, c'est des petites bagarres. C'est un cinéma, effectivement, tellement déconnecté des réalités parce que tous les matins, les mecs ils se lèvent, ils vont bosser, ils sont écrasés de charges, écrasés de charges. Jamais on a payé autant
ça,
de charges.
Ça, c'est un des mots qui revient parce que vous avez commencé à recevoir
juste finir
des
ça,
mails.
Ont,
et parmi ces mails, il y a cette question des charges.
J'ai mis un truc en place qui est un... Il faut déjà que je précise. Je me présente à rien. C'est pour ça que je suis légitime là-dedans. Je veux pas être président de la République. J'aurais pas les compétences. J'ai pas envie de rentrer dans ce cinéma. Justement, là, je vais continuer à faire mes spectacles parce que je vais rester au contact des gens. Mais j'ai mis une boîte mail à disposition pour que les gens m'envoient des propositions. Et donc l'idée, c'est de faire
c'est de peser.
Non, c'est de prendre ces propositions, d'en garder une quarantaine d'ici les élections, de les faire étudier par des gens pour voir ce qui est réaliste et réalisable, et de faire ce que j'appelle un chantage démocratique, c'est-à-dire d'aller voir les deux qui vont rester à l'élection et de leur dire voilà, est-ce que vous engagez solennellement à appliquer ce que veulent les gens, ce que veut le peuple. Et dans ces cas-là, vous aurez nos voix. Ce qui veut dire que si on est 50 000 derrière moi, ça n'a aucun poids. Si on est 800 000 ou plus. On aura vraiment du poids, c'est ce que je pense. Et pourquoi je voudrais faire ça? Parce que, sur ce que je ressens, si démocratiquement on fait pas ça, ça va vraiment dégénérer.
Quand vous dites ça va mal terminer, c'est même ce que vous dites, si on n'écoute pas le peuple, il y a des gens très sérieux, comme Jérôme Fourquet de l'IFOP, qui a analysé ce que vous incarniez. Il parle d'un phénomène social, d'un symbole anti-élite. Il dit, Patrick Sébastien, cette France des campings qui ne se sent plus représentée, trouve en lui, c'est l'expression qu'il utilise, trouve en lui une espèce de champion que le système, entre guillemets, essayerait de bâillonner. Parce qu'il dirait tout fort les vérités qui ne seraient pas bonnes à dire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait?
Bien sûr, je me reconnais, à part que le mot camping, justement, ça fait partie de la caricature. Ça veut dire, c'est la France des campings. Pourquoi la France des campings? Il n'y a pas que des campings. Dans les gens qui sont derrière moi, il y a tout. Les mômes qui viennent me voir l'été, j'ai plein de mômes dans mon public qui vont devenir, qui sont étudiants.
Vous
qui
parlez
vont
notamment
devenir,
des jeunes.
Qui vont devenir chirurgiens, qui vont devenir avocats, qui vont devenir chefs d'entreprise. Et puis autour de moi, j'ai plein de gens de tout milieu différent. Alors, il y en a plein qui me disent, oui, mais c'est aussi, ça ressemble beaucoup au programme du RN. Bien sûr qu'il y a plein de choses que le RN...
Il y a quand même pas mal de similitudes, on peut le dire.
Il y a pas mal de similitudes, mais tu sais qui je représente aussi? Moi, je connais des familles de maghrébins, je connais des familles d'origine africaine qui en ont, je vais être vulgaire, plein le cul, d'être stigmatisé à cause d'une minorité.
Je m'attendais à ce que vous soyez vulgaire, mais pas aussi vite quand même, Patrick Sébastien, ça ne fait que 4 minutes.
D'une minorité qui sont stigmatisés. Ces gens-là, moi je les connais, ils se lèvent le matin, ils bossent, ils respectent la République, ils élèvent leurs enfants parfois bien mieux que des Français de souche peuvent les élever. Donc je représente aussi cela. Au lieu de monter les gens, notre signe de ralliement, c'est ça. C'est la solidarité. Je regarde des partis politiques.
Et en même temps, vous-même, vous distinguez les uns les autres, puisque vous avez cette expression français de souche. Qu'est-ce que ça veut dire français de souche?
Français de souche, c'est français de souche, c'est moi. Je suis né en Corrèze. C'est ce qu'on appelle.
C'est quoi? C'est le mâle blanc.
C'est le mâle blanc. J'ai été viré pour ça parce que j'étais un mâle blanc.
Quoi? De France Télévisions?
Ben oui. Et puis cette France-là, dès qu'elle dit qu'elle est patriote, moi je fais chanter la Marseillaise dans mes spectacles. C'est tout de suite. Ah, vous êtes des fachos. Tu dis, je veux de la sécurité pour mes enfants. Ah, vous êtes des fachos. Tu défends les flics? Je défends pas tous, mais moi quand j'entends Mélenchon dire c'est tous des assassins, je peux pas entendre ça. C'est pas possible d'entendre ça. C'est pas possible d'entendre que tous les flics sont des assassins. Il y a des brebis galeuses dans la police, mais on a besoin. Je fais le comparatif souvent avec mon sport, le rugby. Tu sais, le rugby, on a un arbitre. Pour moi, la police et la justice sont les arbitres de la société. Et
il faut leur faire confiance.
Il faut les respecter, surtout. Au rugby, tu bouscules un arbitre, t'es radié à vie. Aujourd'hui, on tape sur des flics.
Vous avez vu les images, ce week-end, ce tuning sauvage, une gigantesque rassemblement sur un parking de Leclerc, et des policiers qui ont été littéralement pris pour cible.
Non, c'est pas possible.
Au point de devoir eux-mêmes reculer.
C'est pas possible. Ça veut pas dire qu'ils sont tous formidables. Mais c'est pas possible. Qu'on puisse caillasser des pompiers, qu'on puisse caillasser des toubibs, mais, alors, ok, je suis un boomer, je suis d'une vieille génération. Nous, on avait du respect pour ces gens-là. L'élève avait peur du maître, le voleur avait peur.
Vous êtes pour le retour d'une forme d'autorité et en même temps.
Et de liberté.
Dans la comparaison et de liberté, ça on le sait bien, Patrick Sébastien. Parfois elle va très loin chez vous quand même, Patrick Sébastien.
La liberté, elle va où moi ma liberté, elle s'arrête où commence celle des autres. Voilà, tout simplement. Elle va pas très très loin. Elle commence, quand je dis, j'aimerais plus de caméras de surveillance. Les gens, ils vont dire, ah, mais oui, mais atteinte à la liberté. Non. C'est pour protéger la liberté des gamines qui ont envie de sortir le soir et qui ont pas envie de se faire agresser parce qu'une fille, aujourd'hui, qui va sortir dans la rue le soir, c'est dangereux. Et, mais ça,
plus,
c'est pas possible.
Plus qu'avant. En vrai.
Ah, plus qu'avant. Mais bien sûr.
Est-ce qu'on n'a pas juste le nez sur le guidon?
Non. Pas plus qu'avant. C'est pas un sentiment d'insécurité qu'il y a dans ce pays. Faut arrêter de rêver. À un moment, c'est ce bagarre entre le dogme et la réalité. Tu reçois tous les jours ici des gens qui sont dans le dogme. Il y a le dogme écolo, il y a le dogme de droite, il y a le dogme d'extrême droite, d'extrême droite. Et il y a la réalité. Et la réalité des gens, c'est j'ai plus assez de thunes, j'ai trop de charges, ma sécurité est pas assurée. On passe pour des clowns aux yeux du monde entier aujourd'hui.
Et c'est cette question-là d'ailleurs qui remonte dans les fameux mails que vous recevez. Une question aussi sur, puisque vous l'avez dit de vous-même, il y a des similitudes avec le programme du RN, et en même temps, vous dites, je ne voterai pas RN.
Pour l'instant, je voterai pour personne. Et dans ce que je propose, que la personne qu'on va soutenir éventuellement, soit de gauche, de droite, je m'en fous. Et je pense que la plupart des gens, l'abstention me le prouve, s'en foutent aussi du moment qu'il y a une personne ou quelqu'un qui va faire quelque chose pour eux. La Constitution, on est élu par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, on a l'impression, pour revenir au cinéma du départ, qu'ils sont élus par le peuple et pour leur gueule. Mais c'est pour le peuple. Là, aujourd'hui, je vois mes potes agriculteurs, je les soutiens à 100% dans leur lutte.
Contre le Mercosur,
Évidemment. Dans ce qui revient beaucoup dans mes trucs, il y a l'Europe. Est-ce qu'on doit en sortir ou est-ce qu'on doit y rester en étant...
Vous en pensez quoi, vous, Patrick Sébastien?
Moi, j'en pense que soit on doit en sortir complètement, soit on ne doit plus être inféodé à toutes les normes et à toutes les commissions. Parce que ça nous bouffe. Alors, on va me parler, encore une fois, de préférence nationale. C'est une référence nationale. Moi, je suis fier de mon pays et j'ai pas envie...
Difficile aujourd'hui d'exprimer ça?
Moi, j'exprime parce que je m'en fous, j'ai pas peur.
Il y a eu une époque, vous dites, voilà, moi j'ai été viré parce que j'étais le mâle blanc de plus de 50 ans, qu'il y avait une sorte de politiquement correct dans les médias.
Pourquoi il y avait? Il y a toujours.
Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même une forme de diversité des médias, des sensibilités.
Oui, il y a une diversité des médias.
On peut quand même dire ce qu'on veut.
Il y a une diversité en
oubliant. Est-ce que c'est pas facile de dire, voilà, on est seul contre le reste du monde?
Non, on n'est pas seul contre le reste du monde parce que les gens que je représente sont la majorité dans ce pays. Simplement, on leur donne plus la parole depuis longtemps. Simplement, ils sont mal représentés. Ils font des guéguerres entre eux de pouvoir. Dans les trucs que je reçois, il y a plein de gens qui vont pas être contents parce qu'on va s'attaquer à des niches.
Ce que vous voulez retenir? Vous avez dit, parmi les mails, tous ces mails, et d'ailleurs vous dites les lire, et je le crois volontiers puisque vous êtes assez précis dans ce que vous en dites, déjà au moins 10 000 mails reçus, vous dites c'est surtout sur des questions de sécurité, d'immigration, de charges, l'Europe.
Et du gaspillage d'État. Parce que jamais, donc on a payé autant de charges, et jamais les services publics qui sont santés, que c'est censé nourrir, ont aussi mal marché. Donc c'est que le pognon, c'est où passe le pognon. Ce que me disent les gens, où passe le pognon, j'ai reçu plein de trucs. L'argent qu'on donne à l'étranger pour aider d'autres pays qui devraient plutôt revenir à nous. La différence entre le brut et le net sur un salaire, c'est tout bête, c'est la réalité. Ça, ils veulent que ça change. Vraiment. Il y a des institutions, j'ai reçu beaucoup de choses où les gens me disent, est-ce que des régions et des départements sont essentiels?
Est-ce qu'il ne faut pas supprimer un des deux échelons?
Est-ce qu'on ne doit pas redonner? Moi, je serais pour redonner plus de pouvoir aux maires et aux préfets.
Oh, là-dessus, vous êtes plutôt d'accord avec un Jean-Louis Borloo, par exemple?
Oui, aux maires et aux préfets, parce que j'ai même des amis élus moi, je voudrais qu'on revienne aux députés-maires, parce qu'au moins, ils sont sur le terrain. Et ces députés-maires, ils s'en foutent pas.
Donc, le non-cumul, c'était une bêtise?
Oui, pour moi, oui. Cumule des mandats, mais pas forcément cumule des salaires.
Ce qui était déjà le cas. En réalité, ils ne cumulaient pas les salaires.
Et ils sont d'accord. Et puis, il y a plein de gens qui me disent, il y a trop de députés. Il y a des départements, je crois, où il y en a 20 députés.
Est-ce que vous êtes écolo? Vous parliez tout à l'heure de la question des dogmes. Est-ce que vous êtes écolo?
Mais évidemment. Moi, ce qui me gêne dans l'écologie, c'est que ce soit de gauche. Ça veut dire l'écologie est de gauche aujourd'hui. Ça veut dire que tous les gens de droite ont envie que la planète se plante, ont envie que leur gosse meure de ça. Non. L'écologie, il faut un ministère de l'écologie, évidemment. Mais il faut pas que ce soit une dictature.
Quel est, à vos yeux, aujourd'hui, Patrick Sébastien, le plus grand péril pour la France, la plus grande menace?
La plus grande menace, c'est que ça reste en l'état. Et depuis Regarde, toi qui observes depuis des mois, là, ils se battent là-haut, et en bas, ça a changé quoi? Rien. Le plus grand péril, c'est ça. Ce qu'il faut faire pour cette prochaine élection, faut renverser la table. Faut pas se contenter de changer la nappe, parce que c'est ce qu'on a fait là aux dernières élections. On a changé la nappe, mais la table est restée la même. Faut la bousculer, la table, parce que si nous on la bouscule pas aujourd'hui, c'est le plus grand péril qui nous guette, c'est que ça va mal se terminer. Les gens vont vraiment se mettre en colère.
Il y a des partis. Quel regard est-ce que ceux qui vous écrivent, mais aussi vous, vous portez sur les différents partis? Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'un affrontement RN-LFI est inéluctable?
Pas forcément. Il y a peut-être une autre voie.
Laquelle?
Une voie intermédiaire où justement on prend en compte les volontés du peuple. C'est vrai que moi, j'ai rien ni contre les uns, ni contre... Si, j'ai quelque chose contre les extrêmes. Les extrêmes extrêmes. C'est-à-dire qu'au bout du RN et au bout des Insoumis, il y a des choses qui me dérangent. Les extrêmes... Tous ceux qui posent...
Ça veut dire que pour vous, RN et LFI ne sont pas les extrêmes. Il y a des extrêmes plus loin que...
Voilà. RN et LFI... Il y a ces choses, ils sont dans leur conviction à fond, mais à leur extrême à eux, il y a des gens dangereux à leur extrême à eux. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut que on arrête de nous monter les uns contre les autres. Quand je te parle de solidarité, ce peuple français, il a besoin d'être rassemblé. Alors que ces gens-là, des deux côtés, poussent à la haine. C'est la peur dont je parle dans mon bouquin. On se sert de la peur pour lutter contre l'extrême droite, pour la prétendue extrême droite. Et qu'est-ce qu'on fait? On se sert de la peur. On dit, oh là là, attention, il les faut pas. Pour les insoumis, c'est pareil. Oh là là, il les faut pas. Il y a peut-être effectivement une voie au milieu, avec des politiques d'ailleurs, de bonne volonté, qui pensent à l'intérêt.
Il y en a qui trouvent grâce à vos yeux.
Oui. J'ai pas de nom précis.
Ah, bah voilà, d'accord, j'adore.
Bah quoi pas avoir.
Ah, bah y en a qui trouvent grâce à mes yeux, mais j'ai pas de nom précis.
Non, mais bah alors... oui, mais je vais pas vous donner de nom précis pour l'instant.
Bah pourquoi justement? Pour dire du bien,
parce
c'est
que
pas
j'ai
mal.
Pas de nom. Non. Je te parle de généralité. Quand je te dis il y en a, j'ai pas de nom précis, je vais te dire pourquoi. Dans les politiques d'aujourd'hui, il y a, je suis certain, des gens de conviction qui pensent plus à l'intérêt général qu'à leur intérêt particulier. De dire les noms, je sais pas t'en dire là-dessus.
Je vous trouve plutôt moins drôle là-dessus que ne l'était un Coluche. Peut-être vous pensez justement que notre école...
Attends.
Parce que certains ont comparé, ont dit, bah, au fond, c'est peut-être
envie,
notre nouveau Coluche.
Tu crois
non,
que j'ai envie d'être drôle?
Précisément, vous estimez qu'aujourd'hui, on peut plus rire.
C'est pas qu'on peut plus rire. Moi, je continue à faire rire. C'est mon métier d'amuser les gens. Mais sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai pas envie d'être drôle.
On peut plus.
Parce que dans les hôpitaux aujourd'hui, mes copines infirmières, ils voient des gens crever. Tu sais combien il y a eu de sans-abri qui sont morts dans la rue l'année dernière?
Oui, vous avez donné le chiffre.
Il y en a 900. Il y a 900 personnes sans abri qui sont mortes dans la rue l'année dernière dans notre pays. T'as envie de rire, toi? Pas moi. Ça me fait pas rire. Parce que ça peut être des proches de moi. Parce que je vois les gens autour de moi qui rentrent dans les hôpitaux, qui ont pas le temps de se faire traiter, qui quand tu veux avoir un toubib, quand tu veux avoir quelque chose, mes copines infirmières, elles me disent, c'est malgré nous.
Mais vous feriez comment?
Ben, il faut changer le système. Il faut donner un peu plus d'argent aux hôpitaux. Il y a des endroits où il faut enlever de l'argent parce qu'il y a des planques. Attends, les planques
c'est
de
quoi,
copains.
Les planques?
Ben, c'est les planques de copains. Il y a des agences d'État, tu le sais très bien.
Il y a des agences d'État où t'as
un chef de cabinet, un sous-chef de cabinet, un secrétaire du sous-chef.
Donc les agences. Non,
c'est pas aussi.
Sur le logement. Vous parlez beaucoup de la question du logement, Patrick Sébastien. Une des propositions du ministre, là, du logement ou de la ville, c'est l'idée qu'il n'y a plus de HLM à vie. Alors c'est déjà pas le cas, hein. Il y a pas de HLM à vie, mais disons que en réalité, il y a peu de turnover.
Je peux pas rentrer dans ces détails là parce que moi je ne suis pas un spécialiste de ça. Je ne fais que remonter les idées des gens. Ces idées, on va les étudier pour voir ce qui est jouable ou pas.
Et vous allez les analyser
rentrer
avec des économistes.
Dans les détails. Ouais, bien sûr, et je commence pour arriver à des choses réalistes et réalisables. Si on nous demande le SMIC à 30 000, évidemment que c'est irréalisable. Pour le logement, je ne suis pas assez pour l'instant calé et je ne connais pas assez les choses.
Ça veut dire, Patrick Sébastien, qu'il faudra revenir dans quelques mois.
Bien sûr, mais j'en ai bien l'intention.
Quand ce sera justement chiffré, plusieurs questions assez précises. L'une, notamment, sur ce que vous appelez le retour du puritanisme. Comment vous l'analysez aujourd'hui? Vous avez en même temps toujours pu, jusqu'à aller très loin quand même, aller dans le grivois.
Ça dépend où on place le très loin. Dans le grivois, faut arrêter l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie.
Alors, allons-y.
Ben, tu as des enfants, non?
Oui.
Ils ont des téléphones?
Oui.
Va faire un tour sur les téléphones. Tu vas voir ce qu'il y a.
Je sais bien
sur
que c'est
les téléphones,
forcément.
Il y a quoi? Ouais. Les gamins, ils sont quoi ça, sur les téléphones?
Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut les en protéger?
C'est pas à moi à faire ça. On vit avec notre temps. Le temps nous a apporté ces téléphones où les mômes ont accès à tout. On peut pas faire des lois sur tout. Il y a une éducation, il y a une manière de faire comprendre les choses, mais il y a aussi la marche du temps. L'intelligence artificielle, elle est là. Elle est dramatique sur certaines choses. Elle peut être excessivement utile, comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont à la fois un poison, parce que c'est une poubelle infernale, et en même temps, ça a donné la chance à plein de gens
de s'exprimer. Vous dites que ça a permis aussi de rompre une forme de solitude.
La solitude est une chose dont on se rend pas compte à quel point des gens, même en couple, même en groupe, sont seuls aujourd'hui.
Patrick Sébastien, Alain Souchon dit qu'il ne veut pas croire que les Français, je cite, soient assez cons pour voter pour le RN.
J'adore Souchon, mais il a dit une bêtise, bien sûr. C'est ce mépris. Ce mépris-là, c'est ce mépris-là qui a fabriqué le RN. C'est ça qui est formidable. C'est que plus on les méprise à ce point-là, plus on les réconforte.
Vous seriez prêt à payer plus d'impôts, vous?
Ah, moi, j'ai toujours défendu les impôts. J'en paye beaucoup.
Est-ce qu'il faut faire payer des impôts, plus d'impôts aux très riches?
Non. Bah, attends, aux très riches?
Ouais.
À une condition. Faisons payer des impôts. De toute façon, déjà, les très riches payent beaucoup. Moi, je suis pas très riche. Je suis confortable. Non, je suis confortable. Je suis pas très, je bosse. J'ai 72 ans, je vais encore bosser pour gagner ma vie. C'est pas très riche, ça. Je suis pas sur un fauteuil en train d'attendre que ça tombe. Je me bats pour aller les chercher. Moi, je veux bien qu'on prenne de l'argent aux très riches, mais à condition que ça redescende sur ceux qui en ont besoin. Si c'est prendre de l'argent aux très riches pour entretenir des associations, des copains et tout ça, non, bien sûr. Alors leur taxe Glucksmann, je sais pas. Déjà, les riches payent beaucoup. Oui, mais c'est normal. Moi, j'ai toujours défendu les impôts en disant, c'est normal de payer beaucoup d'impôts quand on a gagné beaucoup d'argent.
Merci beaucoup, Patrick Sébastien, d'être venu. On a bien compris que vous reviendrez.
Que ceux qui n'ont pas d'argent, on paye un peu moins, surtout.
Même pas peur. C'est le titre de votre livre et c'est aux éditions XO. Il est 8h49 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Patrick Sébastien, le vrai, est resté avec nous. Rebonjour Patrick.
Ben rebonjour, ça me fait tellement plaisir de voir mon vieux pote.
C'est parti. Jérôme Fourquet dit que vous incarnez la France des campings.
Pourquoi tu me parles de camping, ça m'énerve. C'est une caricature.
C'est ça.
Les Français qui me suivent, c'est pas seulement ceux des campings. Hein, c'est aussi ceux des mobilhomes. Hein, des camping-cars, des caravanes avec les gypsies. Hein, voilà. Non, moi, ce que je dis, alors, c'est urgent. Faut renverser la nappe et changer la table.
Non, c'est le
faut renverser la nappe. Faut renverser la table sans changer la nappe. Et ça, c'est pas facile. J'ai vu faire dans le cabaret, mais c'est pas facile, mais on peut y arriver, moi j'y crois.
Ce matin, nous accueillons aussi pour la première fois le sélectionnaire du 15 de France qui tenait absolument à être là pour vous, Patrick. Bonjour Fabien Galthié. Vous avez écouté Patrick Sébastien, votre regard.
Patrick Sébastien, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain. Il a du vécu, une grosse expérience. Un joueur très polyvalent, il peut jouer à tous les postes. Imitateur, chanteur, producteur. Là, il fait maître chanteur avec le politique. Tu tiens ta promesse, sinon on t'explose. C'est cohérent, ça reste les valeurs du rugby.
Ouais.
Le seul danger qui le guette, pour moi, c'est la blessure. Tu vois, porté par de bons sondages qu'il a. Il peut risquer un claquage de l'ego, une déchirure d'amour propre. En tout cas, moi, voilà, j'y crois, Patrick. Il lui faudra une équipe très soudée. Très soudée. Et pour ça, je peux lui donner un coup de main, lui prêter mes lunettes de soudeur.
Ah oui, ça peut être utile. Merci Fabien Galthié. On passe tout de suite au titre de l'actualité avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Eh oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer. Hier, le Français Camilo Castro, détenu au Venezuela, a été libéré. Emmanuel Macron a tenu à bien préciser qu'il n'y avait pas eu d'intervention ni de l'Allemagne, ni des Allemands, ni du chancelier, ni du Bundestag, ni de Michael Schumacher. Et on poursuit avec cette tentative de vol avortée à la boutique Chanel de l'avenue Montaigne. Et nous sommes en ligne avec une auditrice qui vient de nous appeler au 3216 pour réagir. Bonjour madame.
Oui, bonjour, c'est Anne Hidalgo. Écoutez, non, il ne s'agissait pas d'un braquage. Je suis juste partie, c'est vrai, précipitamment de la boutique Chanel sans rien prendre. C'est juste parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié la carte bancaire de la ville de Paris.
Ah bah oui, c'était ballot ça, c'était ballot. Merci à tous. Donald Trump a annoncé qu'il allait réduire les droits de douane des produits suisses après que les grands patrons suisses lui aient offert un lingot d'or et une montre en or. Bruno Le Maire, vous vouliez intervenir ?
Madame de Malherbe,
oui.
Monsieur Sébastien, vous savez qu'aujourd'hui, je me suis recyclé. Je suis prof d'économie en Suisse. Et bien voilà le résultat. Hein, quand on suit mes conseils, ça marche. Moins 25% sur les droits de douane pour les Suisses. Black Friday sur les emmerdes, c'est ça. Hein. Donc je dis, si on me laissait, Madame de Malherbe, Monsieur Sébastien, Monsieur de Manche, Monsieur Texer, si on me laissait revenir en France, mais je vous le dis, en une semaine, je vous trouve du pétrole sous la Tour Eiffel.
C'est sûr. Retour, donc, c'est vous qui avez conseillé aux Suisses de faire ça. Offrir des objets en or pour obtenir une réduction des droits de douane, c'est quand même de la corruption.
Mais Madame de Malherbe, il faut savoir ce qu'on veut. Ah évidemment, oui. Nous, en France, nos meilleurs clients, qu'est-ce qu'on leur offre ? Des stylos et des petits porte-clés.
Oui.
Non, en Suisse, on sait considérer le client. On offre des lingots d'or. Hein, voilà. Si on veut rivaliser, il faut que Macron m'écoute. J'avais dit à Emmanuel, en plus, hein, appelle Donald Trump, propose-lui des putes.
Ah non.
Mais il adore ça. On lui offre une demi-douzaine, je suis sûr qu'il n'y a plus de droits de douane sur notre pinard, Madame de Malherbe.
Non, n'importe quoi, on va pas quand même offrir des putes. Enfin, c'est pas possible.
Eh bien, alors, on lui offre une poupée chine. Voilà. Hein, hein, faut faire jouer notre réseau. Maintenant, avec le BHV, on a tous les contacts.
C'est
hein, faut jouer avec nos amis.
Monsieur le maire,
sinon,
vous
va choquer bouffer.
Patrick Sébastien qui est ici et qui est extrêmement choqué.
Bah, tu m'étonnes.
Bah, oui. Par vos propos. Samedi après-midi, les locaux d'RMC et de BFM TV ont été la cible d'une alerte à la bombe. Le bâtiment. On revient sur ces événements avec Vincent Moscato, vous aurez reconnu.
Oh, l'alerte à la bombe. Oh putain, l'alerte à la bombe. Je me suis fendu la gueule tout le week-end. Les mecs de BFM, tu vois qu'ils font les éditions du week-end, ils le savent, Texer, Marshall, ils le savent. C'est que des planqués, tu vois, le week-end. Il semble qu'il n'y a pas d'actu le week-end, ouais. Donc ils font le week-end, tu vois. Tu les aurais, putain, là, ils passent la journée à la machine à café, tu vois, les mecs, les gosses. Et là, putain, alerte à la bombe, là. Oh, putain, alerte à la bombe. Tu les aurais vu étaler dans les couloirs comme s'il y avait une équipe de All Black au cul, quoi. Dans les escaliers de secours, t'as des gosses, ils se sont fait flasher à 200 km/h avec des saltes d'organes dans le slip, tu vois. En plus, les flics.
On
les
ne
flics,
pas le slip.
Les flics, ils étaient super chauds, les flics, tu vois. À l'endemain des attentats du 13 novembre, anniversaire, tu vois, les mecs étaient super chauds, ils ont déboulé avec 15 clébards de démineurs qui te reniflent les couilles comme les chiens truffiers, tu vois.
C'est quand même normal qu'on ait pris toutes les mesures de sécurité.
Ah bah, parlons-en de la sécurité, putain. Là, la fouille pour entrer ce matin, il a vécu Patrick, la fouille, t'as vu la fouille, tout le monde à poil sur le trottoir. Les mecs ont sorti le badge en disant non, nous c'est bon, on est dans la direction, tu vois, les Caranoni, les Renards, les Nedjari, tu vois. Et bien non, les flics, que dalle, ils ont dit, ils s'embranlent du badge, ils ont dit tout le monde, une main devant, une main derrière, penchez-vous en avant, éternuez. Le premier qui avait le pincet pilé ou un demi-cure d'ang, c'était considéré comme une arme blanche et tu partais direct à la santé à bouffer des danettes à la pistache et sarco. Tu sais que Caranoni, il est à la santé, là. Il est pas ce matin au bureau, il est à la santé. Et ils l'ont trouvé une bombe dans son sac. Une bombe de l'arc, le mec.
Ah oui.
Ouais, ça bouge. Ouais, pour le connaître, Caranoni. En fait, et tout ça, qu'est-ce que c'était ? C'était un canon, Patrick, encore un grand bluff.
Ah,
il est trop fort. Trop fort, le mec, putain, exceptionnel.
C'était un canard de Patrick Sébastien. Ça valait la peine, Patrick. Alors...
Ça valait la peine. Mon Nicolas, ça me fait tellement plaisir. On était en train de se rappeler. C'était il y a 22 ans.
Ouais, exactement.
J'étais son producteur au début.
Venu me voir lundi soir.
Et on continue tout le monde sur RMC. Merci en tout cas. Face à Canteloup qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, c'est quoi le programme, Alain ?
Eh bien, avec les grandes gueules, on reviendra sur ce qu'a dit Alain Souchon. Il ne croit pas que les Français soient assez cons pour voter Rassemblement National. Et de toute façon, s'il vote RN, lui, il se casse en Suisse. Ça mérite qu'on en parle dans les GG. Non, allez, à tout de suite au 32-16. We'll be right back.